Bonjour, je suis Christian là. Nous nous retrouvons sur Radio Grenouille comme chaque samedi, comme le deuxième samedi de chaque mois, de 11h à midi pour le Petit Alter Radio, une émission mensuelle proposée par Attaque Marseille. Attaque est un mouvement d'éducation populaire tourné vers l'action qui cherche à analyser notre monde, à être une force de proposition pour dessiner les contours d'autres mondes possibles. Pour présenter cette émission, je suis avec Joël et avec Stéphane.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour ce dernier trimestre 2009, nous vous proposons un cycle de 3 émissions consacrées au thème du changement climatique. La première émission du 10 octobre nous a permis de présenter les effets du réchauffement climatique, de sa réalité physique, de la réalité des risques et des politiques néolibérales mises en œuvre actuellement qui sont dans les passes. Dans cette émission, nous aborderons ce qu'il faut faire au niveau global et ce que l'on peut faire au niveau local pour apporter des réponses à ce changement climatique.
Oui, alors donc pour rappeler quand même la gravité de la situation, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat nous prévient que le réchauffement climatique malheureusement est déjà enclenché, qu'il faut absolument qu'il ne dépasse pas les plus 2 degrés en moyenne à l'échelle mondiale, parce que au-delà il y a un risque d'emballement totalement incontrôlable. Et donc ce qui est préconisé par le GIEC, c'est que en 2050, on ait diminué de 90% les émissions de gaz à effet de serre et que ça commence en 2020 avec diminution de 40% et qu'on commence tout de suite dès 2015 les premiers effets. C'est un défi énorme et donc nous voudrions bien savoir entendre ce que propose ATTAC à l'échelle mondiale là-dessus. Donc on passe la parole à Geneviève Azan.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour Geneviève Azan. Dans l'émission précédente, nous avons présenté le réchauffement climatique. Maintenant, il faut passer à d'autres politiques écologiquement et socialement soutenables. Que faut-il faire pour apporter des réponses à cette question et que propose ATTAC pour sortir de cette crise?
C'est une très très longue question. Bon, je voudrais alors peut-être répondre le plus simplement possible. Je pense que dans un premier temps, par rapport à l'actualité, nous avons à nous mobiliser pour que les négociations internationales qui sont en cours puissent permettre d'obtenir un accord qui soit écologiquement soutenable, socialement juste. Donc c'est un premier axe dans la mesure où on doit agir à la fois globalement et localement. Il ne suffit pas de penser global et d'agir local, il faut désormais agir global et agir local et voir comment s'articulent les deux. Donc il y a le contexte actuel des négociations de Copenhague et ensuite un certain nombre d'actions locales qui peuvent être faites, qui doivent être faites absolument par rapport au réchauffement climatique.
Oui, mais alors quelles actions à l'échelle globale? Que peuvent les États? Que peut l'ONU?
Alors à l'échelle globale, les États peuvent signer, s'ils le souhaitent politiquement, un accord que nous demandons, un accord contraignant en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et un accord qui tienne compte des différences entre les pays du Nord et les pays du Sud, notamment qui acte, comme le faisait d'ailleurs le protocole de Kyoto, les responsabilités différentes entre les pays industrialisés qui sont très largement responsables du réchauffement climatique et les pays du Sud qui aujourd'hui en subissent les effets sans en porter la responsabilité. Donc les États, mais ça suppose une volonté politique, peuvent très bien, dans le cadre de l'ONU, signer un accord qui prendrait date qui s'engagerait pour une réduction très significative des émissions de gaz à effet de serre. Je voudrais dire que les travaux du GIEC, le groupe intergouvernemental sur le climat, préconise dans ses rapports une diminution des émissions de gaz à effet de serre pour les pays industrialisés de 40% autour de 2020-2030 par rapport à 1990. Donc si on s'appuie sur ces données scientifiques, il pourrait y avoir un engagement des États industriels pour aller vers ce type de réduction, et ceci de manière contraignante. Or, ce n'est certainement pas ceci qui va se dégager de Copenhague, mais il est très important justement que les mouvements sociaux, les mouvements environnementalistes, les associations de solidarité internationale se mobilisent, demandent des comptes à leurs dirigeants, aussi bien au niveau des États nationaux pour nous que de l'Union européenne, pour pousser dans ce sens-là. S'il n'y a pas aujourd'hui un accord global contraignant, on peut penser que cela retarde considérablement ensuite les politiques à des niveaux locaux. Si aujourd'hui il y a des plans climat qui se mettent en place, etc., au niveau local, c'est aussi parce que malgré tout, nous sommes contraints de façon trop restreinte. Nous sommes contraints par le protocole de Kyoto.
Dans le cadre où rien ne serait fait, est-ce qu'on a une idée des problèmes vers lesquels on va ?
Bon, je pense que vous avez traité la semaine dernière le problème du changement climatique. On sait aujourd'hui, et là il y a un consensus scientifique et politique, mais scientifique, on sait qu'on doit absolument éviter le fameux seuil de dépasser le seuil de plus de 2 degrés Celsius au niveau du réchauffement global de la planète. C'est-à-dire qu'au-delà de ce seuil de réchauffement, eh bien, il pourrait y avoir ce qu'on appelle un emballement climatique absolument non maîtrisable, ne serait-ce que par sa rapidité, et auquel les sociétés auraient du mal à s'adapter. Donc l'objectif des 2 degrés Celsius se traduit par l'objectif d'une diminution minimum de la moitié des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Ce qui veut dire, pour les pays industrialisés, une division par 4. Une diminution à peu près de 80%. Donc évidemment, si ceci n'est pas respecté, il est très probable que les sociétés soient engagées dans des bouleversements écologiques et sociaux difficilement maîtrisables. C'est en ce sens que c'est un enjeu politique extrêmement important, c'est un enjeu écologique, c'est aussi un enjeu politique. Je voudrais dire quand même qu'à Copenhague, vont se rencontrer, puisque c'est le cadre de l'ONU, c'est le G192, se rencontrent les pays du Nord et les pays du Sud, et ces négociations actuellement sur le climat sont absolument fondamentales, parce que, selon les décisions qui seront prises, c'est aussi un type de coopération avec les pays du Sud, un type de solidarité internationale qui est en train de se dessiner. En ce sens, ces négociations de Copenhague sont vraiment très très importantes. Quelle configuration du monde demain? Comment on peut arriver à faire converger des exigences écologiques et des exigences de justice sociale? Tout ceci, c'est vraiment l'enjeu politique de Copenhague.
Alors classiquement, ATTAC, depuis qu'ATTAC existe, se bat pour qu'il y ait des taxes, et en particulier des taxes mondiales, taxes sur les mouvements de capitaux. Alors face à l'urgence écologique, est-ce que ça fait partie des moyens mis en place, et surtout comment ça pourrait se mettre en place?
Oui, absolument. D'ailleurs, c'est pour cela que ATTAC aussi s'est saisi pleinement de cette question environnementale et particulièrement du climat. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se dégage, et c'est la suite aussi du protocole de Kyoto, c'est le côté négatif du protocole de Kyoto, c'est que les moyens essentiels prévus pour lutter contre les effets du changement climatique, c'est le développement de ce qu'on appelle la finance carbone. C'est-à-dire que l'idée est de fixer un prix pour le carbone de manière à inciter les entreprises ou les particuliers à avoir des productions ou des consommations qui soient économes en énergie et donc en émissions de gaz à effet de serre. Mais pour cela, dans la tradition libérale ou néolibérale, ce qui est privilégié, c'est l'organisation internationale d'un marché du carbone sur lequel se fixerait le prix du carbone à partir de l'échange de droits d'émission. Les droits d'émission qui sont actuellement distribués par les États dans le cadre de l'Union européenne aux entreprises les plus polluantes, qu'elles peuvent échanger sur un marché du carbone au niveau européen. De tels marchés sont en train de s'organiser partout au niveau international. Et ensuite également, une des dispositions du protocole de Kyoto, un des moyens envisagés pour atteindre les objectifs du protocole, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de développement propre, c'est-à-dire des mécanismes qui permettent à des entreprises des pays industrialisés de faire des investissements dans des pays du Sud, et si elles arrivent à prouver que par ces investissements, elles évitent des émissions de gaz à effet de serre qui auraient eu lieu si ces investissements n'avaient pas été réalisés, à ce moment-là, ces entreprises gagnent des droits à polluer, si vous voulez, des crédits d'émission. Et ainsi s'organise au niveau international un immense marché qu'on appelle le marché du carbone, qui est un marché profondément spéculatif. Donc ce sont seuls les moyens essentiels aujourd'hui qui sont envisagés pour lutter contre les effets du changement climatique.
Est-ce qu'il y a des forces à l'échelle internationale qui voudraient qu'il y ait d'autres règles du jeu autre qu'attaque, quoi.
Actuellement, le cadre général, quand même, c'est ça. Donc évidemment, tant qu'on met en avant la régulation par le marché, on parle beaucoup moins de la régulation par le biais des taxes. Alors, de nombreux mouvements sociaux au niveau international, des mouvements écologistes ou des mouvements de solidarité internationale plaident, et quelques pays du Sud plaident, et beaucoup de pays du Sud plaident pour qu'il y ait un fonds mondial pour le climat qui serait géré dans le cadre de l'ONU et non pas de la Banque mondiale comme c'est le cas pour les crédits du carbone, pour le marché du carbone, qui serait géré dans le cadre de l'ONU et qui serait alimenté par des contributions des États, contributions obligatoires et non pas volontaires, en fonction de la richesse, des émissions, etc., de la responsabilité historique, et qui serait bien entendu différencié selon les différents pays. Ce fonds mondial donc serait géré dans le cadre de l'ONU, et c'est là que se pose la question des taxes, donc j'y arrive bien. Donc les États pourraient alimenter ce fonds mondial par l'instauration de taxes globales, qui serait à la fois la taxe sur les transactions financières dont nous parlons à attaque depuis notre création, qui pourrait très bien être affectée à des objectifs climatiques, comme autre taxe également, il y a des taxes plus écologiques, une taxe sur la consommation d'énergie et pas simplement sur le carbone, donc taxe sur la consommation d'énergie, taxe sur les kilomètres parcourus par les produits de façon à relocaliser toute une partie de la production. Donc évidemment, par rapport à ATTAC, nous privilégions, concernant les outils de financement, nous privilégions le financement public par rapport au financement privé, financement public qui ne peut être alimenté que par des taxes à l'échelle globale. Bien. Ceci dit, la fiscalité c'est une chose, hein, le financement public c'est une chose, mais nous pensons aussi que par rapport à la régulation climatique, il est nécessaire qu'il y ait de véritables réglementations. Hein, le marché ne peut pas réguler les émissions de gaz à effet de serre, les taxes ne peuvent pas tout non plus, il faut également qu'il y ait des politiques volontaristes, réglementaires, qui permettent de réduire significativement les consommations d'énergie, notamment dans les pays industrialisés, et donc les émissions de gaz à effet de serre. Donc nous prenons des taxes globales à l'intérieur d'une fiscalité qui est également à construire, mais ce n'est qu'un des aspects de ce que nous prenons par rapport à la régulation climatique. Et j'ai oublié de dire d'ailleurs aussi que concernant ce fonds mondial qui serait géré par l'ONU, se pose la question, on le sait, de qui gérerait ce fonds. Bon, bien entendu, nous préconisons que ce fonds soit géré dans le cadre de l'ONU, avec une participation également des mouvements sociaux, des ONG particulièrement impliquées sur toutes ces questions. Et ce fonds pourrait permettre de financer des projets portés par des États ou portés par des mouvements, des projets vraiment alternatifs et qui permettent de faire la transition écologique.
Bien, on vous remercie Geneviève Azam pour toutes ces explications. On vous écouterait pendant des heures sur le sujet. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là dans d'autres émissions. On vous remercie pour votre prestation. Au revoir.
Merci, au revoir.
كلا كسفلتين رجعت على انتشار غير سفر كأنك تواجه رزم في ظلمة موافني في ليكي لا تنبتال يا ماما تكمت قلتين ديوتني سفتان ديوتني من هين جايدة من وار فركم تجو زيتي ديانا ما انت قريد يا زلمه سكزانيتي اللي ما لقيتش شوت دغن حال سكنت في ايدي مخلونا جزار تكتب ترغمي تفلوينا ما في وقت من غيار ساكتين غرغرت النام جرى ظهر في اللون فلولة والكل طبن كورت سبا ما يلال يسك لي في مورت غرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين تدقو يا سداد داد غدنا نهان توافل فوتا جمسكا لاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال هاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال انو اللي بالهندي لقاستنا ميار تقدال ترمي قاقنا سريان قاقنا سريان شتوري الغين سيري رسمان امي شريت قنقر غلبان امي شريت قنقر غلبان
Oui, nous allons continuer cette émission en nous intéressant maintenant à ce qu'on peut faire localement. Parce que autant il faut un financement international pour des actions sur le climat, autant on se rend compte qu'en fait, dans tous les pays, dans toutes les régions, il y a des gens qui travaillent sur comment on pourrait transformer radicalement l'économie pour arriver à réduire à très peu les émissions de gaz à effet de serre qui perturbent le climat à l'heure actuelle. Alors nous avons voulu faire parler à un monsieur qui s'appelle Philippe Vrin. Philippe, est-ce qu'on t'entend au téléphone ?
Oui, je vous entends.
Oui, bonjour. Alors je vais peut-être présenter Philippe Vrin. C'est donc un chercheur en socio-économie, mais qui maintenant est retraité, et qui est surtout un militant d'association, un bénévole donc d'une association dans la région parisienne qui s'appelle Maîtrisez votre énergie, c'est ça ?
Oui, alors c'est l'Agence locale de l'énergie et l'Espace Info Énergie qui est une émanation de l'ADEME.
Et donc ça, c'est sur les villes de Montreuil, Bagnolet, Vincennes, Bondy, donc un contexte qui est un petit peu différent de ce qu'on connaît ici en PACA, hein. C'est donc une partie de la région parisienne. Et pourquoi on a voulu faire parler Philippe Vrin ? La première raison, c'est que dans un article paru sur Internet, dont on parlera après, il a attiré notre attention sur ce qu'on appelle le scénario négawatt, négawatt comme négatif. Alors qu'est-ce que c'est ça, le scénario négawatt ?
Eh bien effectivement, le scénario négawatt a pour objectif de recourir à l'efficacité énergétique, à la sobriété énergétique et aux énergies renouvelables pour diminuer les productions et les consommations énergétiques. Alors tout d'abord, il faut voir que les scénarios tendanciels qui sont encore imaginés au niveau mondial par le Conseil mondial de l'énergie et par l'Agence internationale de l'énergie sont des scénarios insoutenables à terme. D'une part, parce que les ressources énergétiques ne permettront pas de les satisfaire, et d'autre part, parce que les émissions de gaz à effet de serre corrélées à ces scénarios feraient vraiment exploser la planète. Donc, un groupe de chercheurs, de techniciens, qui se sont constitués en compagnie des négawatts, ont imaginé, à partir de 2003, de travailler sur un manifeste pour un avenir sobre, efficace et renouvelable. Et alors donc, ils ont inauguré cette démarche négawatt qui consiste à dire que ben, la meilleure des énergies, c'est celle qu'on ne produit pas ou que l'on récupère par rapport aux dépenses inconsidérées de l'énergie dont nous sommes coutumiers. Alors, l'association négawatt, qui rassemble une bonne centaine d'experts et de patriciens, et de praticiens, pardon, a donc travaillé sur une démarche négawatt, c'est-à-dire une alternative crédible à l'augmentation infinie de nos consommations d'énergie, qui est impossible à terme. Elle est fondée, cette démarche, sur un triptyque, sobriété, efficacité, énergie renouvelable. La sobriété énergétique, ça consiste à réduire les gaspillages par des comportements rationnels et par des choix individuels et sociétaux. Par exemple, profiter au maximum de la lumière naturelle pour s'éclairer, bien régler la température de chauffage, privilégier les aliments de saison et produits localement, etc. Ne pas manger donc des fraises en hiver. Mais aussi travailler sur d'autres conceptions de la ville comme une mise en cause de l'étalement urbain qui est extrêmement dévastateur au niveau des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.
Ça veut dire arrêter de faire des tas de petites maisons éloignées les unes des autres où les gens sont obligés de prendre leur voiture pour aller acheter une baguette de pain.
Alors, en gros, c'est ça. Tout à fait, et pour plusieurs raisons. Sur ce point-là, je vais passer après à l'efficacité énergétique, mais pour ce qui concerne cette question de l'étalement urbain et beaucoup plus généralement du mitage de la campagne que vous venez d'évoquer, eh bien, c'est d'une part une pratique urbaine incohérente, anarchique, et c'est une pratique en outre qui impose aux gens les moins aisés ou les plus pauvres des dépenses énergétiques plus importantes que pour les personnes qui habitent en centre-ville et qui sont en général plus aisées. Il faut savoir que la part des achats de combustibles fossiles dans le revenu des ménages peut être multipliée par 6 entre un riche citadin et un rural pauvre, en proportion de son revenu.
Ça, on n'imagine pas, hein, mais c'est...
Oui, alors il y a une étude de l'ADEME qui a été faite récemment, il y a un peu plus d'un an, et qui montre bien, qui est disponible sur Internet, et qui montre bien que les dépenses des ménages, par exemple, un exemple, les dépenses des ménages en gaz et fuel domestique pour le besoin de chauffage, selon le décile de revenus, peuvent varier entre un urbain qui se trouve parmi les 10% les plus riches de la population française, à 0,4% de son revenu, et un rural qui se trouve parmi les 10% les plus pauvres à 6,5%, qui a des écarts considérables, toujours par rapport à leurs revenus. Donc on voit que les personnes les moins riches supportent par rapport à leurs revenus des poids croissants et donc génèrent des gaspillages croissants, de manière indue bien sûr, dans le domaine des combustibles fossiles, puisque ce sont des combustibles qui constituent les ressources principales des déplacements ou du chauffage.
Mais tout le monde ne peut pas habiter en ville, quoi. Je veux dire, il y a une masse de population qui habite à la campagne dans un habitat qui est diffus, et ça a toujours existé.
Excusez-moi, je vous ai mal entendu.
Je dis qu'on ne peut pas... on peut pas admettre que tout le monde habite en ville. Il y a des gens qui habitent à la campagne, et ça a toujours existé, l'habitat diffus.
Oui, mais les phénomènes que l'on observe depuis une vingtaine d'années, une bonne vingtaine d'années, sont des phénomènes d'étalement urbain qui consistent notamment en construction de lotissements avec une surface de, mettons, 500, 1000 ou même 1500 mètres carrés, à la lisière des villes, et ce phénomène a frappé notamment la région où j'habite, l'Île-de-France, Et ceci donc génère donc des consommations supérieures en termes de fioul pour se chauffer, ou de gaz, même si le gaz est plus économe comme ressource. Et d'autre part, des déplacements, ce qui fait que ces personnes, que l'on appelle souvent les urbains, eh bien, profitent certes de la campagne, mais d'une part polluent l'ensemble des agglomérations, et d'autre part souffrent effectivement de distance, de perte de temps, et de perte de revenus liés à des trajets en automobile qui peuvent fréquemment dépasser deux fois 20 ou 30 km par jour.
Alors, ce que je trouve intéressant dans cette approche du plan Négawatt, c'est qu'on n'oppose pas l'effort individuel, que chacun fasse des économies, donc en étant informé sur comment diminuer ses consommations, et puis d'autre part, les politiques publiques. Hein. Alors la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'il y a d'autres moyens par lesquels les politiques publiques peuvent agir? Qu'est-ce qui est prévu dans ces scénarios négawatts? D'autres moyens pour diminuer les gaz à effet de serre?
Alors je termine d'abord avec l'énoncé du triptyque du scénario négawatt, car je m'étais arrêté à la sobriété énergétique. Le deuxième composante du scénario négawatt, qui est très important, c'est celui de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire ce qui vise à réduire les pertes lors du fonctionnement et de l'exploitation. Donc là, ceci met en avant la question du progrès technique. Il existe un potentiel considérable, par exemple, d'amélioration des bâtiments, des moyens de transport et des équipements que nous utilisons. Et pour les auteurs du scénario, il est possible de réduire d'un facteur 2 à 5 nos consommations d'énergie et de matières premières, et ça c'est très important, à l'aide de techniques éprouvées, de techniques existantes. Par exemple, prenons l'exemple des cellules photovoltaïques. Actuellement, les cellules photovoltaïques qui sont utilisées permettre la production personnelle d'électricité spécifique en étant posée dans le cadre d'un système sur les toits des maisons, eh bien, ces cellules photovoltaïques ont un rendement elles sont fabriquées avec du silicium, en monocouche souvent, et elles ont un rendement qui est relativement faible. Or, c'est sur ces bases-là que s'est fondé le scénario négawatt, et les progrès viendront de toute manière, même si ce scénario a résolu de ne pas les prendre en compte pour l'instant, car actuellement, au CEA ou aux États-Unis, des recherches permettent d'obtenir, par rapport à ces rendements individuels en laboratoire, des rendements bien supérieurs. Donc, ce scénario négawatt est un scénario relativement modeste, même si son objectif à horizon 2030 et 2050 est de réduire de manière drastique les consommations d'énergie primaire par des économies d'énergie, l'efficacité énergétique, et puis par le recours aux énergies renouvelables, y compris du reste en prévoyant un arrêt de production des centrales nucléaires, arrêt qui serait en France bien évidemment progressif, et qui du reste peut être discuté pour les quelques dizaines d'années à venir.
Et donc, sur le renouvelable, là, vous nous avez parlé du solaire. Quelles sont les autres perspectives d'énergie renouvelable ?
Alors, le scénario met en avant sur la base, y compris d'expériences existantes, et je pense notamment aux expériences allemandes, d'abord le recours à l'éolien, qui actuellement est très disputé en France. Il y a beaucoup, effectivement, de polémiques sur cette question. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que en Allemagne, de vastes programmes d'investissement pour l'éolien ont été lancés par le gouvernement et par les États allemands. Ces programmes visent notamment à établir en mer Baltique et en mer du Nord des champs éoliens offshore, loin des côtes, donc qui a priori ne devraient pas générer de dommages très importants pour les riverains, c'est-à-dire ceux qui habitent sur les côtes et puis même les pêcheurs. Ces programmes visent à établir des éoliennes d'une puissance bien plus importante que les éoliennes qui sont établies sur la Terre, par exemple au moins 5 mégawatts par éolienne. Ce sont des engins qui peuvent avoir jusqu'à 100 mètres de haut, hein, et qui ont facilement 50 mètres en dessous du niveau de la mer. Et l'objectif, ce que j'ai pu lire récemment dans un journal allemand, c'est que l'objectif à terme est d'atteindre une puissance nominale de l'éolien en Allemagne égale à la puissance nucléaire actuelle de l'éolien en Allemagne, ceci pour l'horizon 2020. Alors, il convient de préciser qu'effectivement, l'éolien ne fonctionne pas tout le temps. Donc, la production d'énergie électrique de l'éolien, avec une puissance égale, est évidemment inférieure à une production électrique générée par des centrales nucléaires. Toutefois, c'est quand même une ampleur considérable. En France, nous sommes bien en retard, mais nous avons également les possibilités de recourir à ces types de production, d'installation, puisque nous avons, par exemple, des centaines de kilomètres de côte qui pourraient s'y prêter, toujours en offshore. Voilà, par exemple, pour l'éolien.
Oui. On va être un peu obligé d'interrompre. Je voudrais surtout vous remercier parce que ça montre que sur cette question du climat, on n'est pas impuissant. Il y a quand même des possibilités. Il faudrait enclencher une réforme technique et tout ça au niveau de l'administration, des choix politiques. Et je voudrais dire aussi, vous intervenez aussi sur la question de l'aménagement du logement. Alors peut-être en dire juste deux mots parce que on va passer bientôt à la pause musicale.
Oui. Alors il y a un énorme potentiel de gains énergétiques et de réduction des gaz à effet de serre par la réhabilitation du logement ancien. Bien sûr, par la construction de logements neufs à énergie zéro, à énergie positive. Mais ça, c'est 1% par an. Alors qu'avec la réhabilitation du logement ancien, on pourrait permettre de faire en sorte que les consommations énergétiques soient très sensiblement réduites. Alors ça coûterait cher. Ça pourrait coûter d'ici 2050 quelque chose comme 1000 milliards d'euros pour la France. Mais ce serait très satisfaisant. Et des programmes de ce point de vue sont lancés en Île-de-France. Par exemple, pour la rénovation des lycées. Actuellement, la région s'est lancée dans des programmes de rénovation, de réhabilitation des lycées, de construction de lycées neufs et même de construction de lycées neufs à énergie positive, qui permettent effectivement de mettre en application des programmes d'investissement public assez considérables sur ce point-là. Et pour le logement personnel, il y a vraiment un champ de possibilités ouvert qui est absolument considérable. Une étude de l'Institut d'aménagement d'urbanisme de la région de l'Île-de-France, qui date de novembre 2007, montre à quel point l'on pourrait, par des programmes d'investissement public, parce qu'il faudra de toute façon aussi, pas seulement à des pertes privées, mais également publiques, on pourrait faire d'énormes économies d'énergie et aboutir finalement au facteur 4 en 2050 en réduisant la consommation d'énergie fossile.
Merci beaucoup pour votre présentation. Ça nous a mené à nous poser des questions et à réfléchir sur ces sujets. Monsieur Vrain, merci beaucoup pour votre prestation.
Et pour cet optimisme. Au revoir.
Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite bon courage aussi.
Merci.
Au revoir. Thank you.
Maintenant, nous allons voir ce que l'on peut faire localement. Tous les travaux qui ont été menés par le collectif Urgence Climat Copenhague 13, c'est-à-dire tous les efforts qui sont envisagés localement pour apporter une réponse à ce problème du réchauffement climatique. Je vais laisser la parole à Joël Martin qui va vous présenter ses travaux et on pourra alimenter la discussion sur ce sujet-là.
Oui, merci. En fait, on peut trouver des informations sur le blog Urgence Climat 13. Et alors, donc, on a commencé à réfléchir. Et de toute façon, il y a beaucoup d'associations qui ont déjà, d'associations et de collectivités locales qui ont déjà réfléchi. Hein. L'une des choses en région PACA qu'on pourrait déjà transformer, c'est la question des transports. C'est-à-dire que on est dans une région où on souffre d'une hypertrophie des transports automobiles. Les dessertes par rail sont insuffisantes. On pourrait aussi envisager pas mal qu'un certain nombre de transports pourraient être faits par le cabotage, c'est-à-dire les transports de proximité par la mer. Et donc là, il y aurait déjà tout un, disons plus qu'une réflexion, mais vraiment un plan pour l'amélioration du transport SNCF. On se rend compte que très souvent, on est obligé de prendre sa voiture, alors que les rails existent. Il faudrait des transports plus fréquents, plus réguliers. Donc c'est déjà une chose où des gains d'émissions de gaz à effet de serre seraient possibles.
Il y a aussi une interconnexion entre les transports ferroviaire et puis dans Marseille intramuros la desserte par le tram ou par le métro de toute une partie des zones qui sont dans la périphérie de Marseille.
Oui, c'est vrai, ça pose énormément de problèmes. Marseille a un tram depuis peu de temps, un tram qui double en partie le trajet du métro, mais on se rend compte que dans le même temps, il y a eu une diminution de l'offre de trajets en bus pour les quartiers éloignés du centre. Donc là, c'est vrai que en plus d'une orientation nouvelle pour les transports SNCF, il y a la question de l'interconnexion avec des transports urbains qui permettent vraiment de se passer de la voiture. Alors, là-dessus, il y a aussi la question de la gratuité des transports urbains. Donc la commune d'Aubagne vient de lancer les transports urbains gratuits. Évidemment, il faut le financer, mais d'un autre côté, si ça permet de faire, disons, de réels changements au niveau de l'usage de la voiture personnelle, ça peut être gagnant pour tout le monde.
Il y a un autre problème, c'est la diminution du transport de marchandises par la route. Je pense à toutes les politiques de flux tendus qui sont faites et qui génèrent des kilomètres routiers qui sont énormes.
Comment ça, les politiques de flux tendus?
Les flux tendus, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun stockage qui est fait et dans les points de livraison. Et donc ça oblige en permanence, quand on veut disposer de quelque chose, à avoir des camionnettes, des voitures qui viennent chercher les produits dans des unités de stockage et qui permettent d'avoir une livraison des produits médicaux, tout autre produit.
C'est-à-dire que tout ça pour éviter les frais de stockage chez le producteur,
voilà.
En réalité, on va le faire payer...
On fait payer par des kilomètres parcourus inlassablement. Quoi.
Et donc on le fait payer à la planète, quoi, avec de l'effet de serre.
Tout à fait.
Oui, j'avais vu même que, par exemple, le fait de commander énormément de biens par Internet, ça peut sembler un progrès, mais ça veut dire qu'il y a des camionnettes qui roulent tout le temps.
Tout à fait.
Oui, mais alors là, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je te pose la question, Christian.
Disons que c'est vrai qu'en termes, ça transporte les frais de stockage au niveau local, donc il va falloir concevoir d'avoir des points de stockage beaucoup plus localisés pour éviter d'avoir ce transport incessant de marchandises sur la route.
Alors ça, c'est plus une question d'aménagement local, d'aménagement de penser l'économie en termes plus locaux.
Plus locaux et pas avoir des points de stockage qui sont à la périphérie des régions, alors qui définit peut-être les frais au niveau des entreprises locales, mais qui augmente l'impact sur la nature.
Oui, et puis donc, alors ça aussi, je pense, un effet sanitaire, c'est-à-dire que plus il y a de tuyaux d'échappement qui se promènent sur les routes.
Tout à fait.
Hein, c'est pas seulement le climat qui est affecté, c'est aussi nos bronches, etc. Donc, alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que en PACA et notamment à Marseille, il y a toute une réflexion sur comment relocaliser la production. Relocaliser, on se rend compte que à l'heure actuelle, quand on achète un pull, quand on achète une paire de chaussures, eh bien très souvent ça vient de Chine ou d'ailleurs. Alors que quand même, sans être un grand économiste, on voit bien que on sait faire des pulls en région PACA, on sait faire des chaussures. Et donc l'une des mines possibles d'économie d'énergie, ce serait de relocaliser la production. Et là, c'est vrai que ça demande des politiques économiques qui soient orientées plus vers l'unité du tissu économique local, qu'on ait des usines, de l'emploi local, plus que vers le fait de gagner quelques pourcentages sur le prix des produits parce qu'ils auront été faits par des Chinois qui sont payés moins cher que nous. Et donc là, c'est vrai que la question du réchauffement climatique, de la lutte contre le réchauffement climatique, rejoint la question d'avoir un peu, une vie vivable avec des emplois un peu pour tout le monde.
Oui, et puis ça passe aussi par une démarche personnelle. C'est-à-dire quand on voit qu'au niveau des consommations des biens alimentaires, comme le dit M. Vrin tout à l'heure, on consomme des fraises en plein hiver ou que l'on va consommer des haricots verts qui viennent du Maroc, voire qui viennent, comme j'ai trouvé là à l'étal, du Mexique. Je veux dire, c'est fou. Je veux dire, c'est fou manger des haricots verts en plein hiver et qui viennent du Mexique. Je veux dire, le kilomètre parcouru par ce haricot vert et ce qu'il a consommé en énergie, c'est de la folie complète.
Voilà, et pendant ce temps-là, c'est vrai qu'on on a des campagnes qui se désertifient, on a des jeunes qui voudraient s'installer comme agriculteurs localement et qui ne peuvent pas. Et donc, oui, ce serait un autre modèle de développement. Alors, je voudrais dire qu'il y a, notamment à Marseille, des associations qui se battent pour la reconquête de terres agricoles dans les villes et à proximité des villes. Alors ça, c'est tout à fait intéressant. Hein. Il y a quelques dizaines d'années, il y avait des agriculteurs, il y en a toujours quelques-uns, même dans Marseille. Hein. Et donc, l'une des façons de transporter moins de nourriture, donc de diminuer la, entre guillemets, la facture carbone, hein, ce serait ça. Hein. C'est donc le maintien ou la relance d'une agriculture de proximité. Alors c'est aussi un enjeu pour les consommateurs puisque depuis quelques années il y a des AMAP qui se sont constitués, c'est-à-dire des groupes de consommateurs qui mutualisent leurs commandes, qui s'engagent à faire vivre une ou deux exploitations agricoles bien précises. Donc on pourrait, disons, ce serait intéressant que les pouvoirs publics donnent vraiment une aide en termes de aider à la mise en place des marchés paysans, aider à la mise en place aussi d'épiceries paysannes, c'est-à-dire des épiceries qui vendent typiquement et essentiellement des produits locaux.
Alors un autre point que l'on avait abordé tout à l'heure avec M. Vrin, c'est le problème du logement. C'est-à-dire que sur le logement, en termes d'isolation, en termes de chauffage, il y a de gros gains de productivité, si je peux risquer ce terme, qui sont possibles. On a vu dans le dernier salon EcoBat qui a eu lieu à Marseille toutes les possibilités d'isolation nouvelles qui sont possibles, soit dans des logements anciens, soit dans la construction de logements neufs, qui permettraient de diviser énormément les dépenses d'énergie qui sont nécessaires pour chauffer un logement.
Oui, alors moi il y a quelque chose que je domine pas du tout techniquement, moi, parce que à Attac nous ne sommes pas des spécialistes, hein, on est des citoyens, alors on essaye de s'informer, hein, mais quand même quelque chose qui est très, on va dire, très porteur d'avenir, cette idée du logement zéro énergie, hein, c'est-à-dire un logement suffisamment bien isolé pour qu'il se chauffe lui-même simplement avec les activités qu'on fait dans le logement, c'est-à-dire la chaleur qu'on dégage parce que notre corps dégage la chaleur et puis parce qu'on fait de la cuisine, etc. Donc des logements zéro énergie. Mais quand même, ce que nous a dit Philippe Vrin tout à l'heure, c'est que, en fait, le rythme de construction de logements, c'est à peu près 1% par an. Hein. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas rêver comme ça du jour au lendemain d'être tous dans des logements zéro énergie. Hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faudrait construire des logements. Hein. Alors ça, particulièrement dans la région PACA, il y a des listes d'attente dingue sur la question sur les logements sociaux. Il y a le fait que les gens ont tellement peur de ne pas retrouver un logement qu'ils s'accrochent à leur logement. Donc il y a des jeunes qui ne trouvent pas, tout simplement. Hein. Donc là, je crois que là, l'urgence écologique rejoint une urgence sociale. Et donc ce que disait Philippe Vrin tout à l'heure, c'est que d'un côté, bon, développement des logements zéro énergie, mais ça prendra un certain temps. Et puis d'un autre côté, alors là, ce qui peut être fait tout de suite, c'est l'isolation.
Oui, parce que sur tous les logements qui existent, qui sont des anciens logements et qui ont été faits avec des techniques qui sont très anciennes et qui ne prenaient pas en compte ces problèmes de déperdition d'énergie, il y a un travail de rénovation énorme à faire. Et c'est vrai qu'il y a un travail d'information des gens et puis de moyens à mettre en œuvre pour que cette rénovation puisse être faite à un prix abordable.
Oui, puis je crois que ça pose aussi la question de la rénovation du logement existant, pose aussi le problème du tissu économique local. C'est-à-dire que je crois, si on raisonne en termes uniquement de grandes entreprises qui vont faire des logements en série, bon, ces logements ne vont pas forcément être adaptés à chaque situation locale, régionale. Hein, on voit même des bâtiments publics, par exemple, qui sont beaucoup trop chauds l'été et qu'on n'arrive pas à chauffer l'hiver. Mais par contre, il faudrait imaginer sur cette question-là, hein, de l'isolation des logements, une économie l'économie locale avec un grand nombre de petites et moyennes entreprises qui chacune travaille sur des créneaux d'isolation utilisant des ressources locales. Parce que, par exemple, il y a des endroits où on peut très facilement utiliser le bois. Hein. Voilà, il y a un enjeu aussi autour de la gestion de la forêt. Hein. On pourrait construire beaucoup plus avec du bois, d'une part parce que ça peut être un produit local, hein, si on n'importe pas des bois tropicaux, comme on a beaucoup tendance à faire. Hein. C'est un produit local, ça peut faire vivre la filière forêt, et la filière forêt, c'est... c'est une façon de stocker du carbone, hein, donc de récupérer une partie du carbone qui exerce son effet de serre dans l'atmosphère. Et puis le bois, donc si on l'utilise pour des maisons, ma foi, c'est du carbone qui est stocké encore pour 100 ans, 150 ans. Et puis ça permet de faire de l'isolation avec des coûts un peu moindres parce qu'on utilise des produits locaux. Alors il y a d'autres produits locaux qu'on peut utiliser à d'autres endroits, ce sera la paille, etc. Mais c'est vrai que il faudrait là-dessus à la fois un financement, hein, et puis une réflexion, une volonté de développer le tissu économique local.
Et puis ça permettra de s'intéresser un peu à l'homme aussi, c'est-à-dire que ça générera des emplois localement, c'est-à-dire qui permettront de relancer tous des secteurs d'activité et donc de donner de l'emploi localement à des gens qui sont malheureusement dans une situation relativement précaire.
Oui, mais là, tout à l'heure Geneviève Azan nous disait que sur la question du climat, les solutions néolibérales ne marchent pas, hein, c'est-à-dire donner des permis d'émission de gaz à effet de serre à des entreprises en se disant qu'elles pourront ensuite se les échanger et en espérant que le prix de ces produits de ces permis d'émission va augmenter de sorte que indirectement ça inciterait les entreprises à émettre moins de gaz à effet de serre, donc à s'équiper. On se rend compte que ça n'a pas du tout marché, c'est-à-dire que ça a été préconisé par la conférence de Kyoto, mais il y a eu finalement très très peu de diminution des émissions avec ces façons de faire. Par contre, c'est vrai qu'une autre approche en termes d'une économie plus tournée vers l'utilité écologique locale, on peut l'espérer, aurait des effets plus importants. Et donc aussi, ça suppose donc des créations d'emplois locaux. Et donc peut-être qu'on s'en sortirait mieux en développant systématiquement plutôt que d'éliminer toutes les compétences artisanes et ouvrières qu'on peut avoir ici parce qu'on se dit on peut acheter ça ailleurs dans les pays à bas salaire, et bien peut-être relancer cette économie.
Oui, on voit donc on a tout un tas de panels de solutions à notre portée. C'est sûr que ça passe par une démarche personnelle qui va être une certaine remise en cause de nos habitudes de vie. Mais je veux dire, l'urgence devient de plus en plus importante et prégnante. Et on va être obligé, si c'est pas nous, c'est de manière la génération suivante qui va être le dos au mur, obligé de réaliser ce changement.
Mais la génération, le problème climatique, c'est pas les générations à venir dans longtemps, hein. C'est la génération qui est jeune maintenant, hein, qui va prendre ça sur la tête très fort. Il y a aussi un truc dont je voudrais parler pour les auditeurs, parce que vous allez bientôt passer à table, hein. C'est la question de la nourriture, hein. On se rend compte. Alors là, il y a les Amis de la Terre et le réseau Action Climat, hein. On peut trouver ça sur Internet. RAC, réseau Action Climat, hein, qui se sont amusés à compter les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par les différentes consommations alimentaires. Hein. Quand on consomme essentiellement des légumes, des céréales, donc des produits végétaux, hein, y a besoin de beaucoup moins de surface agricole que quand on consomme de la viande. Hein. Et également beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre parce que les animaux, il faut les déplacer, il y a des consommations énergétiques pour les congélateurs, etc., etc. Et on se rend compte que pour la même qualité d'alimentation, hein, si on a une alimentation avec beaucoup moins de produits, de viande, hein, comme c'était encore le cas au début du XXe siècle, hein, il ne s'agit pas de mourir de faim, mais enfin, on on peut manger de la viande simplement, deux ou trois fois par semaine, c'est bien suffisant. Déjà cela, plus des produits locaux, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la possibilité de diminuer considérablement les transports, l'impact sur les sols, etc. Hein, et donc finalement... de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est aussi une nouvelle façon de vivre, un nouvel art de vivre qu'on doit trouver jusque dans notre assiette.
Bien, nous arrivons au terme de cette émission. Nous espérons que nous avons permis d'élaborer votre réflexion et de trouver d'autres pistes de réflexion.
Alors je voudrais dire que nous avons prévu au niveau du collectif Urgence Climat 13 plusieurs échéances pour en discuter. Ce sera à la fin du mois de novembre, hein, le 25 novembre à Marseille au Point de Bascule, qui est une salle de spectacle et de bistrot associatif au Point de Bascule rue Breteuil. Hein, on va passer The Age of Stupid. L'âge des stupides, un film sur le réchauffement climatique. Et nous avons prévu pour le samedi 28 novembre, en bas des escaliers de la gare Saint-Charles, un débat justement sur toutes ces questions. Hein. Un forum sur le réchauffement climatique et surtout les solutions qu'on peut proposer par rapport à cela. Alors bon, ces initiatives sont en train de se préparer, de se mettre en place, hein, petit à petit. Et c'est-à-dire que on pense aussi faire une manifestation probablement le 12 décembre, enfin disons au moment de la conférence de Copenhague, mais c'est pas le tout d'être dans la rue pour dire aux États faites quelque chose, mais il faut aussi qu'on leur dise nous les citoyens nous sommes prêts à changer notre mode de vie, surtout si en plus ça nous permet de vivre mieux, si ça nous permet de dépenser moins de fuel, etc. Hein, et je crois qu'il faut vraiment que cette préoccupation passe chez les gens, hein, qu'on arrête de faire comme si c'était normal de manger de la viande tous les jours, de prendre sa voiture pour aller acheter la baguette de pain, etc. etc.
Bon, vous retrouverez sur le site d'Attaque une série de références sur cette émission et je vous souhaite un bon appétit et puis une bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.